Radio Zaï accueille Mardi Vision.
J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
Un podcast proposé par la médiathèque de l'École d'art d'Aix-en-Provence et ses étudiantes.
Donc on se retrouve après la projection de la pièce de Romano Castellucci qu'on a projetée mardi dernier à l'amphithéâtre. La pièce s'appelle Inferno.
Je m'appelle Romeo Castellucci.
Donc il y a autour de la table
Théo Giacchetti,
Raphaël Pastor,
Claire Ferrer,
Damien Plouinec,
Alice Frost,
Faustine Play, Clémentine Vétillard.
Yeah.
Est-ce que quelqu'un aurait en tête un petit peu la Divine Comédie de Dante, ou pas du tout, parce que personnellement je ne connais pas. Mmh. Apparemment ça a été inspiré, mais ça n'a pas non plus une grosse influence dans Inferno. Mmh. Mais peut-être avoir une introduction.
Pour avoir un tout petit synopsis de la Divine Comédie, donc c'est un recueil de poèmes de Dante qui a été en fait exilé à une sorte de Florence par les papes, et il a écrit suite à ça un recueil de poèmes où il y a trois, c'est en trilogie, donc l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et donc l'un de ses plus grands, le plus connu, c'est l'enfer. Donc l'enfer où il va traverser l'enfer avec des personnages emblématiques, dont des papes, parce que c'est les papes qui l'ont exilé. Donc du coup il se venge un petit peu par rapport à ça. Mais donc il y a vraiment et ça a été vraiment une grande œuvre aussi, notamment dans l'histoire de la langue italienne, parce qu'en fait c'est l'une des œuvres qui se rapproche le plus dans le parler actuel de la langue italienne. On dit vraiment que c'est même l'un des pères précurseurs de l'Italie.
Il me semble qu'au départ au début de l'enfer de Dante, c'est une longue traversée d'une forêt dans lequel il y a c'est pas une traversée bucolique quoi, c'est une traversée très angoissante avec des bêtes auxquelles il est en proie en fait, à être il les voit rôder autour,
c'est un cheminement enfer, purgatoire, paradis.
Il
termine au ciel quand même sur une note positive.
C'est le jugement
happy end.
Je crois qu'il dit qu'on vit l'enfer dans plein d'endroits, plein d'espaces de vie. C'est aussi ça qui l'intéresse.
Pour Raphaël, c'est les silences, l'enfer. C'est compliqué, quoi.
J'avoue que moi, j'étais un peu perdue après cette projection. Il y a eu beaucoup de choses et ce qui m'est resté, en fait, c'est des images, finalement, parce que j'ai eu du mal à... Déjà, je me suis un peu endormie au milieu, parce que c'était pas bien, mais parce que c'était très long et peut-être un peu fatiguée. Et en fait, il y a quand même une notion d'image assez forte dans les couleurs des rênes, dans les couleurs des costumes, dans les plans. Enfin bref, moi, c'est vraiment ça qui marque.
Est-ce qu'il y a une image peut-être qui te reste le plus en tête et dont tu voudrais parler?
Déjà, en fait, ce que j'aimais bien, c'est... c'était le lieu déjà qui était complètement atypique et en fait il jouait vachement avec, c'est-à-dire que il y avait des petites dans le fond, il y avait une sorte de petite arche avec un coin un peu sombre, et à un moment il a joué avec en étant plein de personnes couchées sur des étages, je sais pas si vous voyez ce moment-là, qui était vachement connoté univers concentrationnaire, personnellement, parce qu'on voyait que la plante des pieds, tous ces corps, enfin c'était assez noté. Et je me rappelle de ça, j'ai bien aimé en fait le fait de créer des choses en arrière-plan, vraiment dans le sens littéral en fait du terme. C'est rare, je trouve, que dans une scène classique on ait des arrière-plans aussi marqués. Parce que du coup, il y avait l'action qui se passait sur la scène principale et il y avait quand même ces images en fond dans le décor, mais qui étaient... Enfin, voilà, c'est une image qui m'a assez marquée.
Il y a plusieurs images, mais il y en a une qui me reste. Elle est sonore, parce que moi, j'ai trouvé que le son était quand même très puissant dans la pièce. Et c'est un... Il y a beaucoup de temps dans la pièce où les corps sont pas seuls, il y a beaucoup de personnes sur scène, donc c'est un peu la foule aussi. Et il y a un moment où, je me rappelle d'un personnage qui est avancé sur la scène et qui ouvre la bouche comme pour crier. Et au niveau du son, on a l'impression que les cris sont à l'envers. Enfin, moi j'ai eu l'impression, c'est mon interprétation de ce son-là aussi, parce que je trouve que c'est très ouvert et qu'on peut entendre beaucoup de choses, mais j'ai eu l'impression d'entendre des cris à l'envers, comme s'il avalait les cris enfin, plein de cris différents, en fait. Donc c'est une image qui m'est restée.
Sur le coup, moi, j'ai écrit un petit texte qui réunit peut-être plusieurs images. Enfin, je sais pas si vous voulez que je le lise. Peut-être ça vous donnera des... Bon, c'est très raturé, donc je vais peut-être bégayer, mais... Au démarrage, l'enfant reçoit la balle. Il y a une transmission, mais le ballon, on le possède seul. Ainsi, on s'en remet à Dieu, en colère, car nous sommes des êtres sociaux profondément seuls. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est moi-même. Les enfants sont protégés car ils sont à l'intérieur du miroir. Car on a tous un enfant mort dans le miroir, c'est les remords. C'est comme un accident de voiture, ça va trop vite, beaucoup trop vite. Même si t'es plus là, je t'aime et je crie pour exprimer cette solitude, cette absence, ce goût amer et strident qui résonne en moi. Je tombe pour m'en remettre à Dieu, car lui, il est grand, il n'est pas. L'art parle de la mort. Le jour où l'on aura compris la mort, il n'y aura plus d'art. En attendant, on répète les mêmes gestes. On écoute sans entendre, et on cherche Dieu là où il ne se trouve pas. Comme disait Deleuze, l'homme qui souffre est une bête, la bête qui souffre est un homme. Chez Bacon, il arrive que la tête d'homme soit remplacée par un animal. Parfois, c'est l'ombre qui s'échappe du corps comme un animal que nous abritons. Dans Inferno, nous portons tous une peau de bête. L'être humain accouplé de son animal dans une tauromachie latente.
Où es-tu ?
Au bout d'un moment, moi, je ne savais plus où me situer. Ce que je me demandais, surtout avec cette figure de... Andy Warhol, en fait.
Oui, voilà. Oui.
Où là, je me suis dit qu'en fait, il y avait beaucoup d'ironie en fait, dans son travail. Mmh. Et jusqu'où les images étaient. C'était pas de la satire, quoi. Enfin, je savais plus trop où me situer par rapport aux images, au bout d'un certain temps, je crois. Mmh.
Moi, ça m'a fait chier qu'il parle d'Andy Warhol parce que c'est quand même un des plus mauvais artistes qu'on ait eu.
Et justement, est-ce qu'il fait pas la satire un peu de Warhol
Je sais pas. Il y a quand même, il y a eu cette date de mort et de décès, de mort et de décès,
je de pense naissance. C'était trop présent pour que ce soit satirique. Quoi.
Ouais, c'est ce que je me suis. Oui, il y avait vraiment un truc. Warhol, pas mal, c'est pas.
Moi, je me demande justement s'il se moque pas un peu de cette figure d'artiste. Enfin, même avec le masque, quoi. Il y a un peu ridicule, quoi.
Puis ouais, centré sur lui, qui se photographe lui-même dans une espèce de perdition propre.
Ouais.
Ouais, je sais pas. Je sais pas sur quel degré c'est.
J'avais l'impression que Warhol était dépassé par. C'est comme s'il était. Comment dire. C'était le fantôme de Warhol qui arrivait sur scène et qui était dépassé complètement par l'art total en fait de Castellucci.
Ah oui, tu penses. Ah, c'est,
moi
c'est
je le voyais comme ça en fait. Ça. Et avec son petit appareil photo, en fait, il peut capturer la scène, mais elle
et
est.
Et que lui-même aussi.
Ouais. Ouais. C'est tellement faible par rapport à.
Il fait les mêmes gestes en plus. Chaque fois il monte dans la voiture, il saute, il va remonter la voiture, ouais. Il saute.
Ouais, il est dépassé. Enfin, moi je l'ai vu comme ça.
Ah, tu vois, genre Castellucci a ressuscité Warhol pour lui montrer à quel point ce que fait Castellucci par rapport à lui, c'est clairement mieux. ça serait intéressant.
Moi je l'ai vu comme ça, ouais.
Ok, ça serait pas mal.
Même mon public est mieux parce que c'est le public qui prend en photo. C'est lui qui se prend en photo ou c'est le public qui prend en photo ?
Non, c'est le.
Je crois qu'il prend
le public. Ah, il prend le public, oui. Oui, c'est vrai.
Mais parce que je crois que c'est arrivé juste après où il met le voile sur tout le public, comme si pendant un moment les spectateurs sont en conscience de ce qu'ils voient, ils comprennent et ils font part. Et puis on leur met un voile où ils voient un peu flou ce qui se passe, ils comprennent pas le décalage.
Et vous pensez, c'est quoi la symbolique de ça? C'était genre enlever le public, ou créer, genre pour faire dépasser la scène sur le public? Parce que c'est très poétique quand même de voir les gens s'amuser avec le...
Moi je pense plutôt la deuxième proposition de vraiment faire un lien entre la scène et le public. Et puis je trouve aussi que ça fait vraiment cet aspect d'union, de cohésion. On est tous dans un cocon, si je peux dire ça comme ça, faire cette métaphore-là. On est tous du coup ce moment d'échange et de faire partie de l'œuvre et pas tant être transporté dans l'œuvre, mais vraiment cet échange et ce lien un peu ambigu qu'on peut retrouver dans l'art de manière générale. Mais...
Ouais, je suis assez d'accord, parce que c'est un geste très lent de recouvrir, en fait. Enfin, je trouve qu'il est lent et assez subtil, quoi.
Et c'est une traversée, ça traverse le public jusqu'à que ça disparaisse, mais c'est vraiment une...
C'est le public qui le fait tout seul, en plus, il y a des gens qui arrivent. Ouais.
Et je suis d'accord, effectivement, que là, le public est interactif, mais dans une certaine mesure, t'as l'impression que, genre, il s'est servi du public, bon, en gardant le... J'imagine, en ayant pris conscience de se faire déplacer la scène dans le public, mais on dirait que, genre, le public est un prétexte pour la captation de cette image précise, tout en connaissant, bien sûr... Tout en sachant bien sûr qu'il fait travailler le public. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un double mouvement sans que l'on puisse le généraliser à « Ah tiens, là il a vraiment pensé au public. » Tu vois. Mm-hmm. Ah, tu vois ce que je veux dire? Mais sans dénigrer non plus, parce que c'est clairement une pensée du public de le faire jouer en fait, véritablement. Tu vois. Mais je ne sais pas si lui, par exemple, on peut le classer dans la catégorie de ceux qui mettent véritablement des dispositifs en place pour faire rentrer un...
Après, il propose quand même de modifier la façon dont le spectateur va percevoir ce qui se passe sur scène, oui. Puisque ça devient vraiment, ce dont tu parlais, Raphaël, un voile. En tout cas, dans la captation, on voit bien ça, que ça, qu'on continue à voir à travers, mais que ça voile la scène.
Mais c'est là où on voit aussi qu'il y a un vrai rapport à la plasticité.
Oui.
Parce que l'interaction avec le public, elle se fait tactilement. Quoi. Enfin, je trouve ça assez fort. Et on parle de théâtre, mais c'est aussi très performatif. Et il y a beaucoup de volume aussi. Enfin, quand on a cette et aussi le son, quoi, hyper important. Mais quand on a cette voiture cassée, enfin, tout en fait. Ouais.
Il utilise aussi les propriétés du lieu même. Ouais. Lequel, enfin, je sais pas si on a mentionné que c'était au Palais des Papes, du coup. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est important. Et d'ailleurs, ça me paraissait important par rapport à ce que tu disais, que moi, comme ne connaissant pas, enfin, n'ayant pas lu la Divine Comédie, je savais pas. Mais du coup, le fait qu'il a été. Que Dante a été exilé par les papes. Il y avait ce retour-là au Palais des Papes que je trouve assez ironique, du coup, qui est bien. Qui est sûrement assez fort. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense quand même.
Ouais, c'est sûr. Même. Parce que maintenant que tu le dis, parce qu'il y a toujours cette opposition avec la taille.
Ouais.
Il donne corps, en fait, moi je trouve, à ce bâtiment, face à toutes les personnes qui sont en train de se détruire ou de s'aimer, face à la toute puissance de Dieu, quoi. Il y a un truc qui se joue.
La partie où il y a un grimpeur qui escalade toute la façade du bâtiment.
Au tout début.
Enfin, moi, je trouve ça assez fort. Parce qu'en plus, ça change aussi les points de vue. Enfin, il y a toute une question de regard aussi qui se passe à ce moment-là. Et qui fait circuler complètement dans tous les endroits. Il fait ça aussi avec la lumière et le regard circule un peu partout sur le bâtiment. Je trouve ça assez beau.
T'as pensé quoi du cube avec les enfants?
C'est fameux.
Bah, c'est le passage le plus célèbre. C'est le plus souvent cité. J'aimerais savoir ce que vous en pensez.
En fait, moi, ce que j'ai trouvé très fort, c'est, c'est qu'il y a le titre Inferno en lettres avec les guillemets. Ensuite, les lettres sont retirées, mais les guillemets sont encore présentes. Et il y a les acteurs et les actrices qui sont face au miroir, quoi. Et les guillemets sont encore présents, donc il y a cette dimension de l'enfer, c'est les autres, mais l'enfer, c'est moi, parce que je suis en train de me raider un miroir. Et je sais pas trop comment il a. Je pense que c'est un vers sans temps, ouais. Mais du coup, d'un coup, le miroir disparaît et on voit que c'est une boîte dans laquelle des enfants sont enfermés. Et en fait, moi, je trouvais ça magnifique, puisque les enfants sont dans le miroir, en fait. Ils n'ont pas cette conscience de leur reflet. Les enfants sont protégés car ils sont à l'intérieur du miroir. Car on a tous un enfant mort dans le miroir, c'est les remords. Et ils sont dans une bulle, bon, ça fait peut-être aussi un peu prison, mais pour moi, ils sont sur scène, mais coupés du reste et de l'enfer, d'une certaine manière. Même s'ils sont enfermés.
Est-ce que ça serait pas ça, l'enfer ? Être le reflet de quelque chose qui vient pas se réactualiser devant toi ?
C'est drôle, parce que j'ai pas ressenti comme ça, et maintenant que tu le dis, j'ai eu plus de recul sur la scène, mais vraiment au départ ça m'avait donné des frissons et j'avais trouvé ça fort comme image d'enfermer des enfants et de les montrer ça comme ça. Il y a vraiment ce truc de retour à l'enfance, et j'avais vraiment l'impression que c'est comme si on emprisonnait justement l'enfance pour s'en servir de quelque chose autre que cette valeur symbolique de la vie, si je peux m'exprimer comme ça. Mais j'avais vraiment vu ça comme... je savais pas trop comment l'interpréter, mais ça m'avait... Comment dire... intriguée.
Après, le dispositif lumineux, il peut aussi évoquer une vitrine.
Ouais.
Donc ça ouvre d'autres questions...
Oui, c'est ambivalent, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée de la protection de l'extérieur, mais en même temps, c'est quand même une cruauté à montrer ça. C'est vraiment très... Ouais, c'est cru, quoi. Avec la lumière, en plus, comme tu dis, hyper blanche. Enfin, dans mes souvenirs, c'est comme ça, en tout cas.
Oui, c'est une lumière vraiment qui peut faire vitrine.
Oui, ça fait vivarium, en fait. En plus, la manière dont ils sont en mouvement, enfin, parce que les enfants, c'est quand même assez... En plus, c'est des tout petits enfants, c'est pas des enfants de 10 ans, c'est vraiment des... Pour moi, c'est 5 ans maximum, quoi. Rien ne les dérangeait, en fait. Du coup, ça faisait un peu comme si on affichait cette innocence-là de l'enfance, comme une curiosité, comme si ça avait été perdu, je sais pas. Je vois plus comme quelque chose qu'on affiche plutôt que quelque chose qu'on protège, comme tu le disais. Aussi, à cette agence, on se demande, mais est-ce que ce sont des acteurs? Ils n'ont pas conscience de jouer un rôle. Donc, ça pose cette question-là aussi.
C'est particulier, oui.
Ouais.
Et pour rebondir par rapport à ça, le fait que c'est clairement pas des acteurs.
Mmh.
Et ce que moi je trouvais assez intéressant, c'est que du fait de l'imprévisibilité de ce qui va se passer là-dedans, c'est un événement non dramatique, quoi.
Mmh.
C'est-à-dire que tu ne peux pas écrire à partir de cet événement-là. Si l'enfant s'était mis à pleurer, enfin, comment tu l'aurais su? Comment tu aurais pu produire quelque chose en rapport après? Là, clairement, il s'est remplacé. Et il y a des événements... je crois que c'est le seul événement véritablement non dramatique. C'est de la performance, puisque les enfants, bien qu'ils soient enfermés, partagent le même temps que le spectateur. C'est un moment assez unique, je pense, dans la pièce, le carré et les enfants. Parce que c'est de la présentation brute, quoi. Il n'y a rien qui se passe tout le temps.
Il y a plusieurs moments où il y a du texte, en fait, qui est écrit sur scène et qui d'ailleurs se modifie. T'as parlé des guillemets de Inferno qui finalement restent après que le texte soit effacé. Et puis il y a un moment aussi où il y a, je pense que c'est à la fin de la pièce ou sur les télés, ça finit, où il y a le mot étoile qui finit par écrire toi. Qu'est-ce que vous avez pensé de
ça? Je trouvais ça vraiment bon, j'ai beaucoup aimé.
Ouais, je trouvais ça un peu cheesy.
Comme il y a eu des choses avant qui étaient assez froides, face à ça, du coup, j'ai beaucoup aimé la poésie du truc.
Ouais. Donc,
même si oui, c'est un peu facile et c'est un peu too much, mais en même temps...
C'est ok.
C'est un peu
Parce que ça finit par une adresse qui pourrait être même une... nous pointer du doigt, finalement. Ouais. Désigner, quoi. Puisque c'est toi.
Parce qu'on on termine sur ça. La pièce s'arrête et il y a encore le toit. Ouais.
J'ai surtout aimé la chute des télés. C'est un très bon moment, j'ai trouvé que ça se répète comme ça.
Là, ça donnait vraiment envie d'être dans le théâtre, quoi, pour entendre. Parce que ça devait être puissant, je pense, au niveau sonore, ce qui se passait. Il y a carrément de temps finalement, avec la répétition, on s'attend à ce qui va se passer, on sait qu'il va faire tomber les télés une par une, mais il y a quand même t'es quand même heurté à chaque son par la violence du son.
Il a des moyens pas quasi infinis, Castellucci, mais il a énormément de budget pour toutes ses pièces. Et il y a ce genre de dispositif, bon, qui à mon avis n'est pas très très compliqué, je pense pas. Mais il y a quand même, voilà, ça en jette, auditivement et visuellement. Et à côté de ça, il y a des meurtres au pouce. Tu vois. Et je trouve ça intéressant, ce truc-là. Et des fois, tu te dis, bon, bah, t'as, va plus loin que ça, tu vois.
Quelque chose à dire. Par Romeo Castellucci. Le théâtre que je cherche et que je pratique n'est jamais la lecture ni le commentaire d'un texte préexistant. Je cherche une présence complète des lignes de force dans la matière et grâce à elle, j'agis sur le levier des émotions à travers des images qui soustraient la matière au temps et à l'espace. Ce ne sont pas des images que je crée. Je vais et je viens, en attendant que les images à la fin me trouvent. Se laisser dépasser est pour moi une forme de garantie.
La Divine Comédie est un projet impossible, c'est clair. La grandeur de ce livre excède le littéraire et en termes de théâtre, elle le fait tourner à vide. Mais c'est alors qu'à travers l'impossible, je peux atteindre tous les possibles. Oui, tous les possibles peuvent prendre corps et m'offrir une entière liberté dans la forme sensible de l'erreur. C'è la dirita via eras marita.
C'est un rapport avec le lien d'une loi qu'elle rencontre, d'une limite universellement reconnue. La force sans la loi n'a pas de forme, mais seulement intensité et durée. Cette limite est aujourd'hui la Divine Comédie. En se sentant être Dante, adopter son attitude comme au début d'un voyage dans l'inconnu, dire l'œuvre comme si elle n'avait jamais été écrite, jamais dite, assumer cette responsabilité, prendre le risque de s'exposer totalement au ridicule. Il faut faire Dante, être Dante, et non son œuvre.
Le voyage commence avec l'idée du péché, la forêt obscure de l'artiste. Et de quel péché l'artiste serait-il coupable? De quelle chute son œuvre? Faire une œuvre signifie-t-il se perdre dans l'obscurité ou produire de l'obscurité? Cette obscurité porte-t-elle vers la lumière? Et s'il en est ainsi, comment cela se fait-il? Pourquoi Dante, au début de son voyage, se trouve-t-il au milieu d'une forêt noire? Comme cela, sans aucune raison, sans que nous n'en sachions rien. Un point sans justification, le point de départ de toute œuvre d'art, l'absence totale de motif.
Nécessité de se plonger dans le domaine de ces mots aujourd'hui, enfer, purgatoire, paradis, que veulent-ils de moi aujourd'hui, ces mots? Où sont-ils chaque jour pour moi, pour toi, ces mots? Où se cachent-ils dans la journée? Où est l'enfer et où est, et qu'est-ce que c'est le purgatoire à 4 heures de l'après-midi d'un dimanche quelconque? Et où est le paradis dans la chambre de chaque minute?
Pourquoi semble-t-il déjà un jugement? Et que semble-t-il vouloir juger? Nos vies de solitude ou celles de l'espèce? Mon échec ou ma prière d'artiste et d'homme? Ou les tiens, à toi le spectateur, dans ce rôle qui est de nouveau politique et religieux, qui caractérise aujourd'hui notre existence quotidienne de dysfonctionnement? Être spectateur tout au long de la journée, pratiquement déjà une condamnation à l'enfer.
Les sons qui ont été diffusés en parallèle de la discussion proviennent de la captation vidéo de la pièce Inferno de Romeo Castellucci. Et la musique est signée Scott Gibbons et a été interprétée en direct lors de la représentation en 2008.